Eugénie Pradez, l'alouette. Ce jour-là, les quatre marmites de fer, alignées selon leurs dimensions sur une planche ad hoc au-dessus du fourneau, étaient toutes de service. Et la sœur du curé, vive, alerte, affairée, s'empressait autour du feu, soufflant la flamme, remuant les sauces, goûtant à tout, au milieu d'une activité extraordinaire de pensée et de mouvement. Il s'agissait de bien recevoir des hôtes attendus. Tous les curés, tant s'en faut, n'avaient pas la même égalité d'appétit que son frère, qui mordait avec indifférence le pain bis pétri à la cure ou la miche blanche sortant toute chaude du four du village. Lorsque le curé rentra ce jour-là, après sa tournée du matin, en passant devant la cuisine, il glissa un regard à l'intérieur, et voyant le désarroi des ustensiles, le désordre des vivres et des torchons, l'affairement de la cuisinière, il dit avec un sourire « Oh, oh, c'est grand gala aujourd'hui !»« Dame, monsieur le curé, » dit-elle, « je ne peux pas servir à ces messieurs la soupe aux choux. » « Pourquoi pas ? » dit-il. « C'est excellent, la soupe aux choux !» Sa sœur leva sur lui une face rubiconde, où 35 ans de vie avaient inscrit fidèlement leur passage, et elle le regarda stupéfaite. « Tenez, monsieur le curé, » dit-elle, « laissez-moi faire, vous n'entendez rien à ces choses-là. »« Faites, faites, ma bonne Jacqueline, seulement... » Et une lueur d'austérité passa comme une ombre sur sa figure bienveillante. « Ne faites pas trop, c'est autant de prix sur la misère. »« Sauf votre respect, monsieur le curé, l'hospitalité a ses devoirs, comme la bienfaisance. Satisfaire aux uns n'est pas nuire aux autres. » Le curé s'en alla sans répliquer. Dans ces batailles-là, il était battu d'avance. Et Jacqueline, en dépit de tout le respect qu'elle lui portait, en faisait à sa tête. Oui, dans ces occasions-là, elle passait outre. Elle laissait peser sur elle une vague sensation de blâme, plutôt que d'exposer la frugalité de son frère à la critique des étrangers. Il aurait fait beau voir qu'on alla colporter au dehors des racontars au sujet de la maigre chair de la cure, et que les visiteurs, doués du robuste appétit des villageois, s'en retournassent chez eux affamés. Elle reprit donc aussitôt son soufflet et se remit à l'œuvre autour des quatre marmites en pleine cuisson, sans oublier le four où mijotait le rôti. Une exubérance de vie émanait d'elle, la tenait perpétuellement sur pied et se traduisait partout dans la vivacité des mouvements, dans l'extraordinaire rapidité des actions, dans le désordre même qui régnait autour d'elle. Lorsque monsieur le curé était seul à la cure, Jacqueline dînait à sa table, sans jamais oublier, bien que le même sang coulât dans leurs veines, la distance énorme qui existait entre une pauvre servante de cure et un prêtre, fils de l'Église. Seulement, quelquefois, quand monsieur le curé, levant le nez de son livre, la regardait trotter par la chambre et souriant de cette vertigineuse activité, lui disait d'un ton particulier « Ma bonne Jacqueline !» Elle saisissait tout de suite une intention profonde dans ses simples paroles. Elle tournait vers lui un regard presque fraternel, la large bouche, tendue toute grande, laissait voir deux rangées de dents robustes auxquelles l'usure n'avait pas touché. Et dans ce rapide coup d'œil, ces deux êtres, unis dans une même conviction profonde et tenus à distance par un profond respect de ses croyances mêmes, se comprenaient. L'un semblait dire « Merci ».« Pourquoi remercier ?» disait l'autre. « Ne suis-je pas heureuse ainsi ?» Depuis que le frère et la sœur vivaient côte à côte, cette fusion de pensées, accomplie dans le silence, était la seule allusion qui fût jamais faite au sacrifice de Jacqueline. D'un côté, le renoncement à tout bonheur indépendant et personnel avait été accepté et poursuivi par une conscience gagnée d'avance, comme un acte religieux nécessaire et indiscutable. De l'autre, cette offrande vivante était considérée comme un triomphe salutaire sur les convoitises et les dangereuses affections du monde. D'ailleurs, les yeux et le sourire de Jacqueline ne mentaient pas. Le bonheur était venu, en effet. Peu à peu, elle avait pris goût à cette destinée, trouvée toute prête pour elle, et qu'elle n'avait pas eu la liberté de choisir. S'il y avait eu lutte autrefois, elle ne s'en souvenait presque plus. Elle avait eu à faire face à tant de réalités pressantes que les rêves s'étaient envolés bien loin, à tirer d'elle. Dans la solitude de son petit domaine, elle abattait l'ouvrage du matin au soir, sans relâche, silencieusement. Seule, une alouette, prisonnière dans une grande cage pendue au mur, près de la fenêtre, et moustillée par le bruit de la vaisselle et du ménage, se mettait parfois à chanter à tue-tête. Alors, si monsieur le curé était à la maison, Jacqueline jetait vite sur la cage un épais drap blanc, et l'oiseau, perché immobile à la même place, se taisait aussitôt, attristé. Ce jour-là, cependant, malgré le va-et-vient inusité de la cuisinière et l'air tiède de mai entrant par la fenêtre ouverte, l'oiseau se taisait. Jacqueline, au milieu de son affairement, finit par s'apercevoir de ce silence. Elle leva les yeux sur la cage, en fouilla les recoins d'un regard surpris, et, ne voyant pas la bête, elle se mit à siffloter entre ses dents, doucement. L'oiseau familier, d'ordinaire prêt à l'appel, resta invisible et silencieux. Alors, Jacqueline se hissa d'une enjambée sur un tabouret de bois et regarda au fond de la cage. L'alouette était étendue sur le dos, sans mouvement. Elle la prit dans sa grosse main calleuse et, sentant sous le duvet des plumes percer le poids du petit corps sans vie, elle dit « Oh, c'est pour tout de bon, ma pauvre bestiole !» Après avoir un moment considéré l'oiseau en silence, elle le reposa délicatement dans la cage et ajouta « Te voilà libre, ma petite alouette !» Et, renvoyant à plus tard le soin d'enterrer quelque part, dans le jardin de la cure, la petite dépouille, elle se remit à l'ouvrage, avec une ombre de mélancolie sur sa figure joyeuse. Cependant, la sensiblerie n'était pas son fait. Elle avait fait trop bon marché des gros intérêts de sa vie, trop coudoyé de misère, trop fatigué ses membres à travailler, pour considérer la mort d'une alouette comme autre chose qu'un accident naturel, sans importance. Bientôt, elle n'y pensa plus. Elle s'aperçut alors que pendant sa courte distraction, quelqu'un avait dû pénétrer dans la cure. Elle entendait causer dans la bibliothèque où son frère recevait ses ouailles. Elle écouta un moment le son des voix, mais elle ne reconnut que la base sonore du curé. De sa fenêtre, donnant sur le jardin, elle voyait d'ordinaire entrer et sortir tout le monde. Rien n'échappait à sa curiosité de recluse, concentrée dans ce tout petit domaine, et trouvant à cette maigre pâture une entière satisfaction. Sans doute, le visiteur était entré au moment même où elle constatait la disparition de l'alouette. Elle ne l'avait pas vu venir, mais elle le verrait s'en aller. Et tout en vaquant à ses multiples affaires, elle se mit à guetter à la fois de l'œil et de l'oreille. Cependant, elle attendit en vain. Lorsque tard dans la matinée, les hôtes du curé dressèrent enfin leurs deux silhouettes noires à l'entrée du jardinet, le visiteur mystérieux était encore là. Il y eut un moment de confusion lorsque Jacqueline introduisit les nouveaux venus. Elle s'était échappée tout de suite, elle, et elle était déjà rentrée dans la cuisine quand la voix du curé appela. « Jacqueline !»«
Oui, monsieur le curé. »«
Reconduisez, monsieur, s'il vous plaît. » L'inconnue avait déjà franchi le seuil. Au nom jeté par le curé, il se retourna brusquement et Jacqueline resta pétrifiée à sa place. Instinctivement, elle cacha derrière le tablier bleu, d'un mouvement prompt, la cuillère graisseuse qu'elle tenait à la main, et pour la première fois, elle eut une conscience douloureuse des trous et des taches dont la robe noire fourmillait, de la saleté du tablier, de l'usure des savates, de toute la friperie de son accoutrement négligé. Immobile, elle soutint, sans mot dire, l'examen rapide qu'elle sentait courir sur sa personne, et laissait partout en passant comme une brûlure sur la peau. L'étranger la considéra attentivement pendant quelques secondes, puis, ne retrouvant rien de ce qu'il cherchait, il leva légèrement son chapeau et s'en alla. Tant qu'il fut visible sur la route blanche, Jacqueline ne bougea pas. Mais quand il eut disparu au premier tournant, elle rentra dans sa cuisine, ferma la fenêtre et appuya son front contre la vitre. Là-bas, à l'horizon, la vue était arrêtée par une chaîne de montagnes bleuâtres et elle se demandait tout à coup ce qu'il pouvait bien y avoir derrière ces montagnes, où on arriverait en marchant toujours droit devant soi sur la route là-bas, si le monde était très grand ou si chacun avait comme elle une demeure en un petit coin où il fallait vivre et mourir. En même temps, tous les souvenirs du village natal lui revenaient un à un, jusqu'au jour où elle avait suivi son frère à la cure, et une sensation de meurtrissure, longtemps oubliée, se réveilla dans son cœur. Elle resta là longtemps, tenant toujours la cuillère cachée sous son tablier, avec des retours de honte, des rougeurs qui allaient et venaient, mêlés à un insupportable tourbillon de regrets, de convoitises. Pendant que le tic-tac de la grande horloge frappait l'air de son pas régulier et que l'heure avançait sournoisement. Ce ne fut que quand l'aiguille eut dépassé depuis longtemps l'heure fixée pour le dîner que le curé, passant sa figure étonnée par l'ouverture de la porte, réveilla en sursaut la cuisinière en disant de sa voix bienveillante « Et puis, et la soupe, Jacqueline ?» Elle se secoua toute et le regarda un moment, stupéfaite. « La soupe ? » dit-elle. « on y va, monsieur le curé, voilà !» Quelques minutes plus tard, les trois curés faisaient honneur à la cuisine de Jacqueline. Les deux voyageurs, avec un solide appétit, stimulés par le grand air et la longue attente, le troisième avec son indifférence ordinaire, absolue pour le côté matériel de la vie. Pendant ce temps, Jacqueline réparait à la hâte les avaries du dîner. Elle allait et venait avec une agitation un peu fébrile, mais toujours sûre de son but, et y atteignant vite, sans bruit. La conscience piquée d'un remords, elle se gourmandait tout bas pour cette défaillance d'attention qui avait failli tout gâter, et sa figure échauffée était plus allumée que la braise. Jamais, non jamais, des intérêts secondaires, personnels, ne l'avaient distraite ainsi de ses devoirs envers les chefs de l'Église. Elle se sentait en faute, oublieuse de cette vénération de toute une vie, qui avait comblé pour elle tant de lacunes. Peu à peu, au milieu de ce tourbillon d'activité, les choses et les pensées de tous les jours reprirent leur place accoutumée. En même temps, les petits yeux gris, clairs et vifs, retrouvaient l'expression sereine d'une âme volontairement donnée et qui ne veut pas se reprendre. Quand, vers le soir, les deux visiteurs partis, Jacqueline entra dans la chambre pour achever de desservir et remettre en ordre la vaisselle des grands jours, le curé, debout devant la fenêtre ouverte, regardait au dehors. À l'horizon, de profondes trouées montraient par places un bleu vif derrière l'amoncellement des nuées, et la ligne sombre des montagnes s'esquissait presque, dure, sur un fond floconneux et gris. « Ma bonne Jacqueline, » dit-il en se retournant vers sa sœur, qui posa aussitôt sa pile d'assiettes sur la table et attendit, respectueuse. « Avez-vous reconnu le visiteur de ce matin ?»« Oui, monsieur le curé, » dit-elle sans se troubler. « C'était le grand Louis, le fils à François Chevillot. »« Moi, » dit-il, « je ne l'ai pas reconnu. Il a fallu qu'il se nommât. »« Dame, c'est que les années, en passant, changent le monde, monsieur le curé. » »« Il m'a raconté bien des choses du village, Jacqueline. Et j'ai senti, là, » dit-il en passant la main dans des cheveux courts et drus, « comme un souffle de nos montagnes. » Il y avait un imperceptible accent de regret dans sa voix, et tout le cœur de Jacqueline bondit au-devant du sien, mû par une compréhension sympathique et affectueuse. Mais bien qu'elle eût souffert, elle aussi, à ses heures, de la nostalgie du lieu natal, elle se tut. Ce n'était pas à elle d'offrir des consolations. À peine se sentait-elle le droit de deviner l'involontaire mélancolie cachée sous les mots. « Il se marie, » continua le curé, après un court silence. « Il épouse une jeunesse de par ici, et les bans seront publiés dimanche. » Jacqueline resta muette. Un bourdonnement de sang riche et vigoureux remplissait ses oreilles. Elle sentait battre ses tempes à coups pressés, et tout à coup le flot redescendit brusquement jusqu'au cœur. « Ma bonne Jacqueline, » dit le prêtre, « êtes-vous malade? Vous voilà blanche comme un cierge. »« Malade, moi, peu, » dit-elle en faisant claquer le pouce et l'index, comme si la maladie était une étrangère, tenue à distance, avec laquelle elle n'aurait jamais rien à démêler. « Vous vous serez trop fatiguée, vous voyez bien. »« Non, non, monsieur le curé, fatiguée, peu, non, non, ce n'est pas cela. » Je vais vous dire ce que c'est. L'oiseau est mort ce matin.
L'oiseau? Quel oiseau?
L'alouette. Le prêtre se souvint, en effet, avoir vu quelque part dans la maison une petite bête emplumée, prisonnière dans une cage.
Est-ce qu'on pleure pour une alouette? Dit-il.
Mais ma bonne Jacqueline, l'air du bon Dieu en est plein d'alouettes. « C'est vrai, » dit-elle en chassant brusquement du revers de la main une larme glissée à son insu furtivement sur la joue. « Pour ça, c'est vrai, monsieur le curé. » Elle avait baissé la tête, et elle resta un moment méditative, poussant du pied jusque sous la table un gros flocon de poussière que l'air de la porte avait amené près d'elle. Puis, comme si quelque chose en elle protestait et voulait à tout prix, en dépit de son énergique répression, s'ouvrir une fissure, se faire un jour quelconque, elle ajouta « Seulement, voilà, moi, j'aimais celle-là. » Et jamais, malgré l'incorruptible honnêteté de sa conscience, ce mensonge ne lui pesa. Elle le garda tout entier pour elle, sans scrupule, même en face des obligations du confessionnal. Il appartenait au charitable mystère d'une vie faite de dévouement, d'abnégation illimitée et silencieuse. Personne ne devait jamais soupçonner quelle portion vivante d'elle-même avait été offerte en sacrifice au devoir, telle que son âme simple et religieuse le comprenait.